Bonjour à toutes et à tous et bon lundi de Pentecôte à tous ceux qui écoutent Radio Nekeluka, le journal avec Inès Laure Ngopo. Inès, bonjour.
Bonjour Ghislain Dinakor et bienvenue à tous dans cette édition. À la une, le mouvement 3R brise le silence après le retour de Sidiki Abbas dans le Maquis. Ce groupe armé dénonce des menaces de mort contre son chef. Précision au début de ce journal. Reprise demain de la formation des ex-combattants du FDPC 3R, RJ Bilanga et Antibala Kadoboa pour leur réinsertion sociale. Une formation suspendue il y a quelques semaines en raison du coronavirus. Et puis certains déplacés internes de la ville de Obo, victimes des récentes violences, commencent à regagner des familles d'accueil. En sport, à suivre la réaction de quelques amoureux de football rencontrés ce matin à Bangui. Réaction par rapport à la réhabilitation partielle du complexe sportif Barthélémy Bouganda.
Trois semaines après le retour de Sidiki Abbas dans le Maquis, et son mouvement 3R se brise le silence.
Dans une déclaration dont Radio Nekeluka a reçu copie, ce groupe armé signataire de l'accord de paix du 6 février 2019 dénonce des menaces de mort contre son chef, ce qui, selon le 3R, justifie le retrait de Sidiki Abbas de la ville de Boire. Précision avec Fanny Christelle Balekossi.
Dans une déclaration signée de Sidiki Abbas lui-même le 29 mai à Besson, le mouvement 3R explique que son chef s'est retiré de la ville de Boire en raison de terribles menaces de mort dont il a fait l'objet de la part des éléments de renseignement et sécurité présidentielle. Menaces qui, selon le 3R, ont été proférées en présence du ministre de la Sécurité publique. Ces menaces de mort dont j'ai été victime m'ont poussé à prendre la décision de partir, contrairement aux allégations mensongères développées devant les élus de la nation, à faire croire que je serais parti sur pression de certaines personnalités parlant la même langue que moi, a affirmé Sidiki Abbas, s'interrogeant comment le ministre de la Sécurité a-t-il su ce que je disais au téléphone dans ma langue alors lui-même ne comprend pas cette langue. A-t-il mis mon téléphone sur écoute? Malgré son retour dans le Maquis, le chef de 3R affirme être toujours attaché à l'accord de paix du 6 février 2019, même s'il déplore sa collaboration avec l'entourage du président Touadéra, dont le chef du gouvernement, Firmin Gribada. C'est le cas du Premier ministre qui, par son orgueil et son arrogance, met en avant ses propres intérêts égoïstes, refusant délibérément de communiquer avec les responsables de groupes armés, a déploré Sidiki Abbas. Le chef du mouvement 3R a fait son retour dans le Maquis après s'être extirpé du cortège du ministre de la Sécurité publique, général Henri Wanze Lingisara, le 13 mai dernier, alors qu'ils étaient en mission sur Babwa. Cette sortie médiatique vient ainsi contredire certains propos tenus par le gouvernement lors d'une interpellation devant les élus de la nation le 20 mai dernier.
Merci à vous, Fanny Christelle Balekossi.
Restons dans la Nana Mambéré avec ce soulagement pour les ex-combattants du FDPC 3R, RJ Belanga et Antibalaka qui ont manifesté la semaine dernière pour réclamer leur formation et prise en charge.
Le coordonnateur national du DDR s'est entretenu samedi avec ces démobilisés qui attendent leur réinsertion sociale. Samuel Toitina les a rassurés que la formation suspendue à cause du coronavirus va reprendre, mais ils doivent d'abord être brivés sur les mesures barrières avant le démarrage effectif prévu ce mardi 2 juin. Samuel Toitina, coordonnateur national du DDR, au micro de notre correspondant Priva Rodrigue Lekwanga à Boire.
Donc, sur les institutions gouvernementales, ces formations ont été suspendues. Et maintenant, on cherche à les reprendre, en respectant les consignes données par rapport au Covid-19. C'est pour cela que je suis venu ici rencontrer les démobilisés qui ont fait des mouvements ici pour les rencontrer, échanger avec eux, en commençant par le préfet, par les autorités militaires et administratives, également avec ACTED. Nous avons trouvé comme solution qu'ils doivent reprendre les formations, mais en respectant les consignes relatives au Covid-19. Dans la salle, il doit être 15. Donc, pour cette question, on a multiplié les salles par 2 pour que chaque salle contienne 15 démobilisés au lieu de 20-25. Donc, ces consignes ont été données. La reprise va commencer à partir de le premier février, mais ils vont commencer les formations à partir de 2. Mais du 2 jusqu'à la fin de la semaine, ce ne serait pas la formation professionnelle, mais ça va être d'abord la formation sur le Covid-19. Comment porter les masques et comment faire pour éviter la contamination de cette pandémie-là.
C'était Samuel Toitina, coordonnateur national du DDRR.
Direction maintenant la ville de Obo où la vie reprend progressivement son cours normal.
Les déplacés des affrontements du 20 mai dernier entre les forces armées centrafricaines et les éléments de l'UPC commencent à regagner leur maison. Certains sont accueillis dans des familles d'accueil. Toutefois, la peur gagne encore les cœurs, suivant un habitant de la ville, joint au téléphone par Emmanuel Samboli.
Les déplacés n'ont pas repris leur localité sous le prétexte de la peine. Ils ont repris d'autres ménages d'accueil, des ménages d'accueil par force parce qu'ils ont quitté le site en catastrophe parce qu'il y avait menace d'une éventuelle attaque du PC. Et c'est pourquoi ils ont essayé de quitter le site en catastrophe pour regagner d'autres familles d'accueil en attendant que la situation soit normalisée et que le renforcement de l'effectif des familles soit effectif. C'est pourquoi. Donc pour le moment, il y a une partie qui commence déjà parce que dans le ménage, il y a toujours des discussions, des mésententes. Une partie de cette population commence déjà à regagner le site à cause de l'effet.
Chapitre Covid-19 dans ce journal, le virus est en train de faire rage parmi de grandes personnalités centrafricaines.
Après le président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, Emile Kroré Monakombo, et le ministre des Finances Henri-Marie Dondra, 4 autres membres du gouvernement seraient testés positifs. Hier, le gouvernement a annoncé le décès lié au coronavirus du ministre conseiller spécial à la présidence, Albert Dibert. Plusieurs autres personnalités au gouvernement et la présidence seraient infectées par cette maladie pulmonaire. Jusqu'à ce matin, la République centrafricaine compte officiellement 1111 cas positifs, 23 guéris et 2 décès.
Inès, qu'en est-il du continent africain?
Selon le Centre africain de prévention des contrôles des maladies, le continent recensait jusqu'à hier dimanche 31 mai plus de 142 280 cas de Covid-19 et 4084 décès. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont toujours les deux pays les plus touchés par le coronavirus.
C'est dans ce contexte que l'association Walimolundo poursuit son assistance alimentaire à la population vulnérable.
Elle a remis samedi des produits de première nécessité à plus de 1000 personnes démunies à Damara, située à 75 km de Bangui. Remise couplée avec la sensibilisation contre le Covid-19. Jean-Eudes Bagali.
C'est au pont bascule de Damara que l'association Walimolundo a remis ses kits alimentaires en présence des autorités locales. Plus de 1000 personnes ont reçu ces produits vivriers composés de l'huile, farine, sucre et de savon. Sidoine Makanda, coordonnatrice de l'association Walimolundo.
On a distribué des vivres, c'est parce qu'il y a une loi qui a dit qu'il ne faut pas trop soit se faire des activités, il faut rester à la maison pour éviter la maladie. Les gens ne vont plus au marché comme avant pour vendre, donc on a pensé à tout ça.
Cette action citoyenne impressionne Ousmane Babi, un des bénéficiaires.
Cela fait déjà longtemps qu'on n'a pas vécu de telles choses ici à Damara. C'est seulement à Bombari et à Bandoro qu'on distribue souvent des vivres. Je suis dans la joie de recevoir ce kit. En ce qui concerne la maladie à coronavirus, nous allons à notre tour sensibiliser nos familles respectives à respecter les mesures édictées par le gouvernement.
Ce don couplé avec la sensibilisation de la population sur les mesures barrières contre le coronavirus tient à cœur le sous-préfet de Damara, Francis Gazi, souhaite néanmoins que le gouvernement puisse les doter en kit de prévention pour organiser davantage la riposte.
On a démarré la riposte depuis le 27 mars. On a mis un comité de crise sur pied et ce comité a travaillé d'arrache-pied. On a pu organiser une caravane et à travers cette caravane, la population est atteinte. Il se pose des problèmes de kit. Notre population est estimée à 45 000 habitants. Nous sommes répartis en 5 axes. Donc il faudrait que tous ces actes-là soient desservis en kit.
Cette action en faveur des personnes qui n'ont pas de moyens intervient après celle effectuée dans les 8 arrondissements de Bangui, Bigwa et Bimbo.
Et puis ce lundi 1er juin 2020, c'est le lundi de Pentecôte.
Il suit toujours la Pentecôte qui a été célébrée hier dimanche, une date d'autant plus particulière en raison de la pandémie de coronavirus, puisque les lieux de culte restent encore interdits. Ici en Centrafrique, ce lundi de Pentecôte est un jour férié, chômé et non payé. Le lundi de Pentecôte a été aussi instauré comme journée nationale de solidarité afin de financer le plan d'aide aux personnes âgées et handicapées.
Dans la suite de l'actualité de cette mi-journée, la dotation de la cellule coton de basse de la Kémo plutôt en moyen roulant par le gouvernement.
5 motos ont été remises vendredi dernier aux agents d'opération de cette cellule. C'est dans le cadre du projet de relance de la filière coton dans le centre de la République centrafricaine, à ses buts de correspondance de Serge Romial Damilé.
C'est dans le cadre des activités de relance de la cellule coton que le ministère de l'Agriculture et du Développement agricole a fait ce don de 5 motos aux agents d'opération. Ceci pour faciliter le déplacement de ces agents afin de suivre les activités cotonnières dans le centre du pays. Léonard Doumana, coordonnateur de ce projet, demande aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Quant à Gabin Ozou, chef d'exploitation de la cellule coton de Guifa, qui se dit satisfait, ce moyen de déplacement va lui permettre d'être à tout moment aux côtés des délégués techniques et les planteurs pour suivre les activités agricoles sur le terrain. La remise de ces moyens roulants a eu lieu en présence des autorités locales de la sous-préfecture de Sibut. Sibut, Serge Romial Damili, Radio Ndekeluka.
Un rebondissement dans la mort du juge Raphaël Yanni en République démocratique du Congo.
Il y a une semaine, le juge a été retrouvé mort. Il était le président du tribunal de grande instance de Kinshasa, celui qui a la charge de l'affaire Vital Kamerhe. Et le juge Raphaël Yanni a été empoisonné, dit le rapport d'autopsie cité par la radio Okapi. Un poison a été utilisé, affirme ce média, qui ajoute qu'une expertise international est envisagé.
Plus d'un mois après que le complexe sportif Barthélémy Bogwanda a été déclaré non conforme aux normes internationales et suspendu par la CAF, les travaux de la réhabilitation partielle sont en marche.
Cette réhabilitation partielle concerne principalement l'aire de jeu, les vestiaires et certains bureaux prioritaires. Une équipe d'inspection de la CAF est à nouveau attendue dans la capitale centrafricaine du 30 juin au 30 juillet prochain. Cependant, que pense l'homme de la rue de cette réhabilitation partielle dont le est estimé à 20 millions de francs CFA. Quelques amoureux de football rencontrés ce matin par Rolf Steve Domialeu donnent leurs impressions.
C'est tout à fait normal qu'on puisse réhabiliter ce stade parce que nous voyons que parmi les critères que la CAF a exigé pour suspendre notre stade, si vous pouvez trouver normal qu'un stade international comme le stade 20 000 places ne puisse pas avoir de vestiaire pour les joueurs, ne puisse pas avoir des toilettes, ça c'est déjà le minimum. Si, après la réhabilitation, nous pouvons avoir ce strict minimum, vraiment ça rehaussera le niveau de notre santé, ça rehaussera le niveau de notre nation aussi. Peut-être ça encouragera les gens à revenir au football.
Selon la décision du CAF, tout le monde est d'accord pour cela. Nous d'abord voulons que cette réhabilitation soit faite par une société digne, conforme ou non. Mais en voyant ça, il y a des sociétés qui travaillent sur le terrain. Certes, ce n'est pas une société pour répondre aux critères. Parce que vous voyez que le stade a été construit sur un ancien cimetière. Il y a des termiciens partout. Il faut y avoir un travail profond avec des machines, des produits pour pouvoir traiter le terrain normalement afin que ça soit aux normes internationales.
C'est plus important parce que nous avons besoin d'un stade qui répond aux normes internationales. Nous ne pouvons pas avoir un stade qui est comme un stade du quartier.
La CAF accélère le décaissement de l'aide financière destinée aux associations membres.
Lors de sa réunion du jeudi 28 mai 2020, tenue par visioconférence, le comité d'urgence de la CAF a approuvé la distribution immédiate de subventions financières aux associations membres pour soutenir la gestion locale du football frappé de plein fouet par la pandémie de COVID-19. Une somme globale de 10,8 millions de dollars américains sera transférée au 54 membres associations du continent dans le cadre de cet appui. En raison de la propagation rapide de la COVID-19, les associations membres africaines ont suspendu toutes les compétitions nationales, ce qui a accru le poids des charges financières sur leurs épaules. La CAF a donc décidé de modifier les conditions d'éligibilité pour accéder aux subventions annuelles afin que toutes les associations membres puissent en bénéficier pendant cette période difficile, a déclaré le président de la CAF, Ahmad Ahmad. De plus, la CAF évalue l'opportunité d'un soutien financier supplémentaire aux associations membres pour la reprise et l'organisation de leurs compétitions nationales. Et c'est la fin de ce journal sur les 100.9 FM.